Balado Gazette, la plateforme de diffusion de création radiophonique vous propose Culture 5. Bernard Laurent, c'est à vous.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Culture 5. Au menu de votre magazine hebdomadaire, nous aurons Hervé Richoux et son Aristide, nous aurons Johan Lefebvre et sa capsule de jazz et Magdalene et son Nashroudine. Mais tout d'abord, laissez-moi vous présenter une nouvelle plume et donc une nouvelle voix, celle de Lionel Traverse. Il nous arrive de Colombie-Britannique. Vous pourrez faire plus ample connaissance avec notre exilé, par amour, si j'en crois la rumeur, dans balado-gazette.fr à la rubrique Auteur. Nous sommes le 15 avril 2022. Mon cher Lionel, c'est à vous.
L'homme primitif, ignorant la relation entre l'axe sexuel et la reproduction, voyait dans la femme un être magique. Elle donnait naissance aux membres du clan et assurait ainsi la survie du clan. Qui plus est, la femme mettait au monde des membres féminins et masculins, phénomène surprenant qui renforçait la déification de la femme. Pendant des centaines de milliers d'années, le concept de la mère déesse basé sur la suprématie du sexe qui enfante, prédomina partout. C'est ainsi que ces humains préhistoriques, qui ne comprenaient pas le monde, expliquaient les phénomènes qu'ils observaient autour d'eux, y compris la reproduction, par le mythe religieux. La femme y était donc déifiée pour son pouvoir magique de reproductrice. La prise de conscience du pouvoir physique des hommes en tant que procréateurs, associé au pouvoir religieux né de leur incompréhension du monde, a abouti à la tyrannie masculine que l'humanité a vécue jusqu'à aujourd'hui. L'homme, dans son inconscient collectif, allait se venger des femmes en qui il avait vu des déesses qui l'auraient trahi. C'est ainsi qu'il va structurer les sociétés à travers leurs lois et leurs religions de manière à maintenir les femmes en état de soumission. Le thème de la femme traîtresse, Ève qui mange la pomme du jardin d'Éden, Dalila qui coupe les cheveux de Samson par exemple, repris dans la plupart des mythes, est présenté comme une justification subliminale au maintien des femmes en état d'infériorité sociale. La contraception et le droit à l'avortement ont donné aux femmes le contrôle de leur corps. Puis la génétique a rendu archaïque l'incertitude sur la paternité. Enfin, l'insémination artificielle a fait de l'homme un simple donneur de sperme. L'homme, qui s'était investi du droit de procréateur, qui était celui de la femme, et qui avait mis la femme en esclavage, se voit d'une part relégué à un rôle de donneur de gènes à la carte, du fait de la liberté sexuelle acquise grâce au contrôle de la grossesse, et d'autre part, il se trouve confronté à un devoir de père qu'il avait habilement escamoté du temps de l'incertitude sur la paternité, puisque cette paternité est aujourd'hui devenue génétiquement prouvable. L'homme ne peut donc plus renier sa paternité, et la femme a acquis le contrôle de son corps. Les deux concepts qui étaient à la base de relations tyranniques des hommes envers les femmes, sont devenus caduques. Alors que de l'Antiquité à la découverte de la pilule, l'homme pouvait impunément violer et mettre une femme enceinte sans que celle-ci n'ait aucun recours et aucun moyen de prouver la paternité de l'enfant, aujourd'hui, la femme décide quand elle veut porter un enfant et avec qui. De plus, grâce aux lois sur l'avortement, elle peut reprendre possession de son corps. L'omnipotence masculine, en matière de reproduction, a été remplacée par l'omnipotence féminine. Ce renversement des rôles est un véritable tsunami dans la relation sociale entre les hommes et les femmes. Cette révolution sexuelle place l'humanité à un carrefour historique par rapport non seulement au rapport homme-femme, mais aussi par rapport à la perception qu'ont les hommes de leur rôle, non seulement de père, mais aussi globalement au sein de la société. Dans ce nouveau contexte, la femme maintient son rôle indispensable de reproductrice, alors que l'homme est devenu superflu, autant dans son rôle de protecteur que dans celui de procréateur. Le débat sur l'avortement n'est pas du tout un débat sur le concept d'humanité du fœtus. C'est avant tout un débat sur la liberté de la femme et sur la propriété de son corps. Interdire l'avortement, c'est nier aux femmes la propriété de leur propre corps. L'interdiction d'avorter est le dernier rempart contre la libération de la femme.
Merci infiniment Lionel. En fond sonore, c'était la symphonie numéro 3 en fa majeur de Johannes Brahms. À l'heure où nous arrivent des témoignages poignants de femmes qui en Ukraine sont victimes de viols, il ne me semble pas inutile de faire très rapidement le point sur une des conséquences possibles de cette arme de guerre. Je veux parler des grossesses non désirées et de la législation sur leur interruption volontaire. Les infos qui suivent ont été tirées des travaux d'Amandine Claveau et Déborah Rouache sur l'évolution du droit à l'avortement dans le monde et en Europe. C'était à l'occasion de la Journée mondiale du droit à l'avortement le 28 septembre 2021, sous l'égide de la Fondation Jean Jaurès. Alors, commençons par les États-Unis, où depuis le 1er septembre 2021, l'État du Texas récompense financièrement les citoyens poursuivant en justice toute personne se rendant complice d'un avortement à 6 semaines de grossesse et plus. Aux États-Unis, seulement 38% des femmes âgées de 13 à 44 ans vivent dans un État, avec un E majuscule, leur permettant d'avorter. Descendons un petit peu vers le sud, en Amérique latine. Eh bien, il y a un petit peu du mieux, si j'ose dire. En Argentine, à Cuba, en Uruguay et même au Mexique, l'avortement est permis à peu près sans condition, à l'inverse du Honduras, du Nicaragua ou du Salvador, où recourir à un avortement est un crime passible de plusieurs années de prison, même en cas de viol ou d'inceste, de malformation grave du fœtus ou de risque pour la vie ou la santé de la femme. Traversons l'Atlantique, allons en Afrique. Pratiquer une IVG est autorisé uniquement en Tunisie, en Guinée-Bissau et en Afrique du Sud. Au Maroc, par exemple, le code pénal permet, depuis 2020, d'avorter en cas de viol, d'inceste, de malformation du fœtus ou de troubles mentaux chez la femme, à condition d'en faire la demande auprès de la justice. Bon courage. L'avortement est entièrement banni en Égypte, en Mauritanie, au Sénégal, en Sierra Leone et au Congo et à Madagascar. Beaucoup plus loin par rapport à nous, en Asie, l'avortement a été décriminalisé en Thaïlande, c'est fait. En Corée du Sud, l'avortement n'est plus interdit depuis le 1er janvier 2021, bien qu'il ne soit pas entièrement légal car aucune législation n'a été adoptée pour remplacer l'ancienne. Courage. Il est en revanche entièrement interdit d'avorter aux Philippines et au Laos, mais autorisé en cas de danger pour la vie ou la santé de la femme au Bangladesh, en Birmanie ou au Sri Lanka. En Océanie, citons l'exemple de la Nouvelle-Zélande où l'avortement a été décriminalisé en mars 2020. C'est pas vieux. Au sein de l'Union européenne, la situation est également contrastée. L'Irlande a été le dernier pays à légaliser l'IVG à 12 semaines en 2019. Toutefois, son application demeure difficile en raison du peu de centres médicaux et du manque de praticiens, en plus de la clause de conscience invoquée par le personnel médical. Il en va de même en Italie, où environ 70% des gynécologues refusent de pratiquer les IVG au nom de leurs convictions personnelles. En Pologne, la législation relative à l'avortement est l'une des plus restrictives au sein de l'UE. Elle a été modifiée par le tribunal constitutionnel le 27 janvier 2021. L'IVG est désormais autorisée uniquement en cas de viol, d'inceste ou de mise en danger de la vie de la femme, revenant de cette manière finalement à l'interdire. En effet, 98% des avortements en Pologne en 2019 concernaient la malformation du fœtus, une condition qui n'est plus légale. Enfin, le seul pays européen à prohiber totalement l'IVG est Malte, où le catholicisme est une religion d'État. En France, l'IVG peut être réalisée jusqu'à la fin de la 14e semaine de grossesse, soit 16 semaines après le premier jour des dernières règles. Soyons précis. Anne Sylvestre.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile. Si c'était moins difficile. S'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre. Si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme? Qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste. Depuis si longtemps, j'existe. Depuis si longtemps, je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils, ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre. C'est la mort, c'est le gouffre. C'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche. C'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces. Mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Un dernier mot sur le sujet. En Europe, le Haut Conseil pour l'égalité femmes-hommes déclare que les droits des femmes sont, je cite, une composante essentielle de l'état de droit, un enjeu de démocratie et une valeur non négociable de l'Union européenne. Vous écoutez Culture 5, le magazine de la rédaction de balado-gazette.fr, et passons maintenant, avec sourire, de l'homme superflu de Lionel Traverse à l'homme multitâche d'Hervé Richoux.
Une étude récente et scientifique attribue aux hormones la capacité des femmes à être multitâches. Sans fausse modestie, Aristide prétend être l'égal, ou presque, de nos congénères féminines capables d'assurer simultanément tâches cognitives et locomotrices. Exemple. Qu'il soit à la coque, dur ou mollet, Aristide est capable de se faire cuire un œuf et, concomitamment, de surveiller attentivement la cuisson. Deuxième exemple. Aristide se sent capable, quel que soit le canal sélectionné, de regarder l'écran de télévision tout en se coupant les ongles et ce, même s'il s'agit d'une émission nécessitant un pouvoir de concentration exceptionnel, comme Le meilleur pâtissier ou The Voice ou L'amour est dans le pré. En vrac, d'autres exemples des prouesses d'Aristide. Dans la salle à manger, lire le journal et boire son café. Dans le salon, repasser une chemise et écouter la radio, même France Culture, voire Balado Gazette. Au supermarché, vérifier la date de péremption des yaourts tout en échangeant avec sa voisine rencontrée par hasard des propos sur la météo capricieuse. Devant la glace de son étroite salle de bain, Aristide est capable de se raser et de s'admirer. Dans la rue, regarder à droite et à gauche avant de traverser. Il est vrai qu'il s'agit là de deux actions non pas synchrones, mais plutôt successives, même si l'intervalle entre les deux est minime. Simultanément, Aristide est capable. Aristide est capable de lire et de ne rien comprendre. Il est capable d'écouter et de ne rien entendre, ou l'inverse. Mais là où il est imbattable, multitâche à l'égal de la gente féminine, ce n'est pas seulement quand il joue sur les grandes orgues de la cathédrale utilisant ses deux mains et ses deux pieds pour faire monter dans la nef les harmonies de cette toccata et fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach. Ce n'est pas seulement quand il frappe aveuglément le clavier du demi-queue du hall de l'EHPAD des Jonquilles et entonne avec les pensionnaires enthousiastes et nonagénaires le refrain « Ninipochien ». Au nord de l'île d'Oléron, en cette fin d'après-midi du jeudi 12 juillet, sur la plage de la Brée, Aristide contemple Daphné qui sort de l'eau encore un peu fraîche en ce début de saison et, tout en regardant les courbes gracieuses de sa bien-aimée, Aristide, multitâche, rêve.
Merci Hervé. En fond sonore, c'était la toccata et fugue en ré mineur de J.S. Bach. Culture 5, c'est aussi une boîte aux lettres où l'on peut déposer des messages. Écoutons celui de Linda Lemay. Hélas, je ne pourrai pas y répondre.
Je cherche un homme de 50 ans qui a tout rêvé, qui a tout perdu, qui s'en est juste assez voulu pour savoir ce qu'il veut vraiment. Je cherche un homme de 50 ans qui a déjà tout dû, tout rendu, qui a refait juste assez d'argent, mais que l'argent n'éblouit plus. Je cherche un homme de 50 ans qui a déjà plu, déjà déçu, et qui a fait juste assez d'enfants pour être juste assez ému. Je cherche un homme qui a survécu, qui a déjà tout fumé, tout bu, qui a tout connu des femmes nues. Un homme qui ne cherche plus. Je cherche un homme de 50 ans qui sait ce qu'il n'a pas à offrir, qui a plus de passé que d'avenir, mais qui enfin prend tout son temps. Je cherche un homme de 50 ans qui est déjà préparé au pire, qui sait ce que le temps peut pas guérir, qui a déjà vu trop d'enterrements. Je cherche un homme de 50 ans que la vérité ne fait plus fuir, qui a le courage de ne pas mentir sur ses foutus de sentiments. Oui, un monsieur de 50 ans qui ne se prend plus au sérieux, mais qui m'aimerait silencieusement et qui le ferait de son mieux. Je cherche un homme pas trop solide, parce que personne ne l'est jamais, un qui aurait juste assez de rire et presque plus de secrets. Je cherche un homme comme il y en a plein, mais je les croise jamais, un qui ressemble à mon chagrin et qui peut-être m'attendrait. Un homme de 50 balais, peut-être plus, peut-être moins, bien entendu un pas parfait, mais enfin un qui serait le mien, peut-être pas pour toute la vie, mais pour quelques moments, si vrai qu'au moins j'aurais pas le cœur détruit chaque fois que je m'en souviendrai.
Allez, quittons cet univers parfois tumultueux entre les hommes et les femmes pour retrouver la capsule de jazz de Johan Lefebvre, capsule de jazz consacrée à Chet Baker. C'est la troisième, il y en aura une quatrième. Bonjour Johan Lefebvre.
Bonjour Bernard.
On a vu dans les deux premières capsules consacrées à Chet Baker ses apprentissages musicaux, ses premières rencontres, ses premières influences, le début de sa carrière professionnelle. Il a la trentaine. Que se passe-t-il à partir de cette époque-là qui va influencer peut-être pas directement sa musique, quoique, mais qui va influencer très largement le déroulement de sa propre vie?
Eh bien Bernard, on est en 1955, Chet Baker est un icône du jazz aux États-Unis et il part pour la deuxième fois en Europe puisqu'il y était déjà allé avec Charlie Parker. Et il part en Europe pour enregistrer pour la firme d'Eddie Barclay qui est en train de vulgariser le jazz en Europe. Et c'est là qu'il y vit son premier drame. Son pianiste et ami Dick Fartzik meurt quelques jours après les débuts des enregistrements d'une overdose. Les parents de ce jeune pianiste accusent Chet de la mort de leur fils, mais Chet poursuit quand même sa tournée avec les musiciens français. Après 7 mois de tournée, il rentre sur la côte ouest et grave de nombreux disques, avec notamment le saxophoniste alto et clarinettiste Art Pepper, The Root and the Playboy. Ce n'est plus un secret, Chet est dépendant à l'héroïne. Il est alors arrêté en possession de drogue en 1957. En 1958, il signe sur Riverside. Riverside, très grande boîte de production de disques de jazz aux États-Unis. Et il enregistre un disque avec le pianiste Bill Evans. On en a déjà parlé dans une capsule précédente. Et Philly Joe Jones, qui était un des premiers batteurs du quintet de Miles Davis, eux aussi drogués notoires. Il est vraiment en plein dans la drogue et il est en train de sombrer.
Et alors comment arrive-t-il à continuer sa vie de musicien, de jazzman?
Eh bien, Il retourne en Europe sitôt après avoir enregistré ce disque avec sa femme et ses trois enfants. Et il est arrêté et emprisonné de nombreuses fois.
Toujours pour des histoires de drogue.
Oui, c'est ça. Il est expulsé d'Allemagne, il est expulsé d'Italie. Il a pourtant beaucoup de succès en Europe et rencontre, comme le disent la plupart des jazzmen de l'époque, un public plus à l'écoute qu'aux États-Unis. Enfin, nouveauté dans ces années-là, il découvre et s'initie au bugle. Le bugle, c'est un tout petit tuba qui est de la même hauteur que la trompette, donc qui a un son très rond et qui est plus facile à jouer. Et je pense que l'état de fatigue de Chet Baker y est pas pour rien.
À ce moment-là, il retourne aux États-Unis, on est en 65.
Oui, mais aux États-Unis, il y retourne, la vie va très vite là-bas, il n'est plus du tout connu, il n'a plus la même aura qu'il avait avant. Il peine à trouver des musiciens avec qui jouer, il n'a pas beaucoup d'engagement et il continue à sombrer dans la drogue. Et malheureusement, il se fait casser la mâchoire par des dealers à San Francisco en 1966 qui l'empêchent totalement de continuer à jouer. Il doit réapprendre à jouer avec un appareil dentaire, ce qui est totalement fou pour un trompettiste.
On va découvrir ça dans la capsule de la semaine prochaine. Merci, Johan.
Merci, Bernard.
Culture 5 tire à sa fin, mais je ne voudrais pas que nous nous quittions avant d'avoir écouté les 2 minutes que Magdeleine consacre à l'un de ses personnages préférés.
Bonjour à tous et bienvenue dans le monde philosophique et malicieux du Moulla Nasruddin. Un jour, le Moulla se présenta devant le gouverneur pour être confronté à 3 philosophes. Le premier se présenta. « Où se trouve le centre de la Terre ?» demanda-t-il. « Eh bien, le centre de la Terre, c'est le centre même de l'endroit où mon âne, ici présent, a posé son sabot. »«
Et comment peux-tu le prouver ?»«
Non, c'est à toi, au contraire, de réfuter mes dires. Va chercher un maître. » Le deuxième philosophe demanda à son tour. « Combien y a-t-il d'étoiles dans le ciel ?» La réponse fut immédiate. « Exactement autant que de poils à la robe de mon âne. Quiconque ne le croit pas est libre de compter les unes et les autres. »« Combien y a-t-il de modes de perception ?» interrogea le troisième philosophe. « Très facile de le déterminer, » répondit Nasruddin. Il y en a exactement autant que de poils à ta barbe. Et je vais te décrire ces modes, si tu veux, au fur et à mesure que je t'arracherai ces poils. Il y en a également, d'ailleurs, autant que de poils à la queue de mon âne. Les philosophes se consultèrent, comprirent que leurs spéculations théoriques n'avaient aucun fondement logique ou quantitatif. Et, d'un commun accord, ils s'engagèrent dans les rangs des disciples de Nasruddin.
Merci Magdeleine. Voilà, Culture 5, c'est terminé pour aujourd'hui. Eh bien, merci à Lionel, merci à Hervé, merci à Johan et merci encore une fois à Magdeleine. On se retrouve la semaine prochaine ou quand vous voulez sur le site balado-gazette.fr. Allez, pour se quitter, je vous propose de retourner vers Anne Sylvestre, accompagnée de Bobby Lapointe, qui nous chante cette quête de l'amour à nul autre pareil. À ciao.
depuis le temps que je l'attends, que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant.
Voilà, j'arrive, mon aimé. Tu peux broder mon S à côté de ton A. Longtemps déjà je t'ai cherché. Tant pis pour la jeunesse, on fait avec ce qu'on a.
J'ai astiqué les armoires au point d'en user le bois. J'ai donné ma bassinoire, avec lui je n'aurai pas froid. Pour le lit j'ai en réserve celui de mes grands-parents. Il est grand temps qu'il resserve depuis bientôt 60 ans. Depuis le temps que je l'attends, depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant.
Voilà, j'arrive, mon aimé, de ton lit je m'en charge, il va se réveiller. Vu le temps que je t'ai cherché, s'il n'est pas assez large, on n'aura qu'un oreiller.
Je dois dire que je penche pour un certain décorum, un mariage en robe blanche avec beaucoup d'harmonium. Monsieur l'abbé Labouture, celui qui doit nous marier, pense que telle aventure se doit d'être enjolivée. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, mon prince charmant.
Toi mon aimé, s'il n'est pas trop mariole, amène ton curé. Longtemps déjà je t'ai cherché, mais pour la gaudriole, plus besoin de clergé.
Je ne savais pas qu'un homme c'était aussi déroutant. Ce doit être ce qu'on nomme un don juan. Et pourtant, je pense à ce que ma mère a failli me dire un soir, des choses bien singulières que je ne veux pas savoir. Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends. Depuis le temps que je l'attends, j'ai des doutes maintenant.
Voilà, j'arrive, mon aimé, que madame ta mère excuse mes propos. Mais pourquoi donc t'ai-je cherché? La vie est trop amère avec une vieille peau.
Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé.
Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé.
Depuis le temps que je l'attends, que je l'attends.
Voilà, j'arrive, mon aimé. Voilà, j'arrive, mon aimé. Voilà, j'arrive, mon aimé. Voilà, j'arrive, mon aimé. Voilà, j'arrive.